Bonjour les marcheuses et les marcheurs, bonjour les randonneuses et les randonneurs en ce samedi matin 10h. Bienvenue dans votre nouvelle émission, je marche, donc je suis. Nous voilà embarqués pour une demi-heure de chronique à la fois écolo, patrimoniale, environnementale, bien sûr culturelle, mais également sportive. Sur ces terres, des pierres qui roulent, qui vous donnent sans doute envie de courir, voire de voler, nous allons nous limiter à marcher, mais d'un bon pas, pour justement essayer de trouver satisfaction. Pour débuter cette rubrique, comme toutes celles qui suivront d'ailleurs, c'est un rituel. Je vous propose une citation d'un auteur célèbre qui aimait la marche et qui en louait ses qualités. Pour ce deuxième numéro, j'ai fait appel à Nietzsche, l'un de mes philosophes préférés, qui valorisait les réflexions qui naissent pendant la marche, comme il le fit notamment dans le Crépuscule des Idoles. Mais à cela, il faut ajouter deux citations assez remarquables. Nietzsche disait « Marcher, c'est retrouver son instinct primitif, sa place et sa vraie position, son équilibre mental et physique. » Pour lui, seules les pensées qu'on a en marchant valent quelque chose. Nietzsche entendait ainsi redonner dans toute sa légitimité à la chair et aux activités physiques. Un esprit sain dans un corps sain, voilà ce que promeut la marche nietzschéenne.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présenté par Robert Almalric.
Nous voilà embarqués pour notre Ambulo Argo Sum, dans notre discours sur la méthode pour mieux marcher et randonner. Aujourd'hui, un seul conseil sur la nutrition. Dans un effort physique, il faut apporter au corps suffisamment de substances pour nourrir les muscles. Donc, votre petit déjeuner habituel ne doit pas se limiter à un café. Ensuite, prévoir, avant de débuter l'effort, une banane ou tout autre apport de sucre lent. Et pour les pauses, notamment avant le déjeuner, vous pouvez prévoir des fruits secs, des barres énergétiques ou quelques accompagnements qui vous apporteront un surcroît de vitamines.
Vous êtes bien sur Radio FM Plus et vous écoutez « Je marche, donc je suis ». I'm not trying to have another conversation.
Probably not gonna wanna play me on your station. Aujourd'hui, notre réflexion va porter sur l'orientation. Vaste sujet. Depuis l'éternité, l'homme s'est révélé un explorateur infatigable. Pour mener à bien ses desseins, il s'est d'abord fié au soleil, à la lune, aux étoiles. Puis il a voulu appréhender son environnement en dessinant les premières cartes, mémoire de ses périples. Mais pour utiliser ces esquisses de territoire, il fallait des points de repère. Et c'est là que la boussole, ou du moins au départ, ce qui s'en rapprochait, est intervenu. Pour cet objet, pas de datation possible. Mais les Olmèques, il y a quand même 10 000 ans avant Jésus-Christ, utilisaient un procédé astucieux. Plus tard, les Chinois se sont singularisés avec leur pierre aimant, utilisée il y a environ 2500 ans. Mais il a fallu encore plusieurs millénaires pour obtenir des cartes fiables et une boussole plus efficiente. Celle-ci commencera à s'avérer utilisable vers le XIVe siècle. Après, le magnétisme a été expliqué vers 1600 et l'usage des cartes n'a cessé de se développer et de se sophistiquer pour finir par quadriller l'ensemble de notre planète. Ce n'est pas si vieux. En ce siècle dernier, c'était encore l'unique arsenal pour se déplacer et s'orienter. Depuis, le GPS qui a été inventé au XVIIIe siècle, quasi simultanément d'ailleurs à Londres et à Philadelphie, aux États-Unis, est venu chambouler la donne. En 1950, il n'était encore utilisé par la seule armée américaine et il a fallu donc le lancement d'une multitude de satellites pour en généraliser l'accès à tous et pour tous au début de notre siècle. Du coup, l'orientation a changé de dimension, devenant abordable pour tout un chacun par la magie de l'électronique. Donc, me direz-vous, de nos jours, plus question de cartes papier et de boussole. Nous avons à notre disposition tout un arsenal d'applications et des suivis GPS qui ont enterré tous ces fossiles. Eh bien, détrompez-vous pour moi, l'un des fondamentaux de la rando reste la carte et la boussole. Je vais m'en expliquer car nombre d'entre vous vont contester, augurant que c'est uniquement l'affaire de puristes et qu'en plus, personne ne les utilise. C'est en partie vrai. En moins de 20 ans, le paysage et les pratiques se sont métamorphosés sous l'apport des smartphones et de l'électronique. Mais je vais quand même essayer de vous convaincre en avançant des raisons pour justifier que ces objets qualifiés d'obsolètes ont toujours leur raison d'être. Pour les mordus de GPS et autres GIC, je ne conteste pas l'intérêt de l'électronique, bien au contraire. D'ailleurs, j'y consacrerai nos deux prochaines chroniques.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présentée par Robert Almalric.
Aujourd'hui donc, nous continuons à parler de cartes et boussoles. Bon, en 10 minutes, je ne vais pas entrer dans le détail de l'utilisation d'une carte IGN et d'une boussole, ni comment lire et tracer un parcours sur une carte IGN, comment se repérer sur le terrain. Je n'évoquerai pas non plus la déclinaison magnétique, ni ne vous parlerai pas de triangulage. Il existe pour cela des formations de 5 à 6 jours qui vous enseigneront toutes les arcanes de cette pratique, que maîtrisent d'ailleurs la plupart des encadrants diplômés S-randonnée, qui conservent ces éléments au fond de leur sac, car que reste-t-il quand l'électronique vient à faire défaut ? Ou quand la météo joue de vilains tours ? Non, si j'insiste aujourd'hui, ce n'est pas pour l'aspect technique, mais pour redonner à la randonnée toutes ses lettres de noblesse. Car si la randonnée, c'est mettre un pied devant l'autre, c'est aussi beaucoup plus que cela. Je l'ai déjà dit, la randonnée est un loisir sportif, certes, mais aussi et surtout une activité découverte et un apprentissage environnemental doté d'une connexion sociale et développant une communion avec la nature et les éléments naturels. Il y a deux façons d'aborder la rando. Soit l'on subit un bon petit soldat et on se laisse guider en se remettant totalement à son guide, soit l'on participe activement. Cela ne signifie surtout pas suppléer, remplacer ou aider le responsable de la rando, qui reste seul maître à bord. Non, c'est pour s'ouvrir à soi-même, se documenter en amont pour que chacun de vos pas s'accompagne d'une découverte. La rando, c'est un voyage, certes limité dans le temps et dans un environnement circonscrit, mais ça se prépare pour en retirer un maximum d'intérêt. C'est cela, vivre pleinement une rando. Laisser ses pieds jouer leur partition, c'est secondaire, mais garder la tête aux aguets, prête à faire face à toutes les découvertes. Et c'est là que le travail préparatoire sur une carte IGN vous fournira matière à exalter votre passion. La carte IGN au 1/25 millième, c'est le privilégié pour les randos. 1 cm pour le papier, 250 mètres en réalité. Devient alors un véritable livre composé de 1000 indices qui vous diront tout du territoire arpenté. Toutes les infos y sont recensées. Chemin, sentier, rivière, source, grotte, habitation, point de vue, zone remarquable, relief et dénivelé. Suivre un tracé sur une carte IGN, c'est se créer un film, écrire un scénario que vous aurez ensuite tout loisir de vivre et de relire tout en marchant. Mais me direz-vous, je ne vais pas pouvoir acheter toutes les cartes IGN de France. Effectivement, il y en a plus de 1500. Évidemment, ceci est simplement une invite pour une découverte exaltante à pratiquer avec méthode et peut-être même avec parcimonie. Mais il faut débuter, tester, s'enquérir, en pratiquant progressivement. Naîtra alors en vous le désir de refaire un parcours de votre propre chef en utilisant la boussole et vous ressentirez alors un sentiment d'accomplissement et d'autonomie que peu d'autres compétences peuvent offrir. C'est en apprenant à utiliser le soleil, les révélations environnementales, la boussole, la carte, et surtout en observant attentivement la nature qui vous entoure, que vous développerez une compréhension plus profonde de votre environnement. Cela m'amène à conclure par une pirouette. Dans la vie, essayez de ne pas toujours subir, mais essayez d'agir. C'est valable au cours d'une rando. Cela reste tout aussi applicable dans vos associations. C'est un constat. Les bénévoles se font rares. Trop de participants utilisent les assos comme des prestataires de services. On comprend très bien que les nouveaux retraités, libérés de leur charge personnelle, aient envie de vivre pleinement leur temps personnel, fuyant cela à toute implication qu'ils suspectent toujours d'être trop chronophages, voire aliénantes. Mais, en fait, tout se maîtrise. Il est toujours possible de donner un peu de temps, sans perdre son âme, ni trop remplir son agenda. Sachez qu'en contrepartie, vous en retirerez beaucoup plus que ce que vous aurez donné. Vive le bénévolat, et pour les randonneurs, qui reprendront les cartes, il n'est pas interdit de rêver qu'ils finiront un jour par encadrer leur propre randonnée. Alors vive la rando, et vive la joie de vivre dans des passions pleinement assumées.
I'm in love with your brother.
Robert Amalric, Je marche donc je suis. Deuxième partie. Nous venons d'entendre Pass This On, une chanson très acérée, voire affûtée, du groupe The Knife. Et nous reprenons le fil de notre chronique en accueillant notre invité du jour, Claude Ribaud. Alors Claude, tu es à la fois le président et l'animateur de Parcours Loisirs. Dis-nous tout sur ton organisation.
Merci Robert, merci FM+, merci de donner la parole à une petite association. Parcours Loisirs est une association qui a 10 ans, fondée par quelques amis qui ont eu besoin de donner une assurance pour accueillir des copains, des voisins, tout ça. La raison d'être, les objectifs de notre association, c'est le patrimoine naturel, humain, culturel, le faire connaître, le faire découvrir ou redécouvrir en le parcourant.
Voilà, ça c'est l'avantage des randos, de vivre et de pouvoir se rencontrer dans la nature, dirons-nous.
Oui, tout à fait, par des sorties, sorties dans la nature, sans oublier les villages et aussi les villes de notre région, parce qu'on est passionné également du patrimoine historique urbain.
Donc à la fois, ce sont des randonnées que l'on pourrait qualifier de classiques dans la région, mais également des randonnées urbaines, pourrait-on dire.
Oui, moins souvent, nettement moins souvent, parce qu'on a quand même, pour nos activités, la marche. Et quand nous sommes en ville, non seulement la marche est moins agréable, mais elle n'est pas toujours suffisamment longue quand on fait des visites, par exemple. Notre encadrement est un bureau de 6 membres, 5 animateurs bénévoles, ce sont les créateurs, organisateurs de leurs sorties. Nos adhérents sont une majorité de retraités, majorité de femmes. Notre budget est alimenté par les adhésions, 35 euros. On est resté longtemps à 20, mais il faut pouvoir payer les frais fixes, en particulier le site internet, hein, pas seulement l'assurance. Notre site internet, notez-le bien, parcoursloisirs.com. Sur parcoursloisirs.com, vous trouvez notre programme et quelques informations générales accessibles à tous. Par contre, les adhérents ont un code leur permettant d'accéder à certains dossiers.
Dossiers pas particuliers, bien sûr.
Comme les photos de nos randos, tu vois.
Très bien. Donc ça, c'est le lien, donc parcoursloisirs.com.
Nos activités, c'est 2 sorties par semaine, les lundis et jeudis après-midi. Environ une fois par mois, nous avons une sortie d'une journée entière. Les sorties de l'après-midi sont des marches de 2 à 3 heures sur une boucle de 7 à 8 kilomètres selon les difficultés et en particulier les mois de l'année. Car en décembre, si on est à 6 kilomètres, c'est pas plus mal étant donné que la nuit tombe assez vite. La localisation, ça peut être Montpellier. On a 2 ou 3 sorties à partir de Montpellier avec rendez-vous par tram dans la banlieue. Mais c'est aussi autour d'une vingtaine de kilomètres, jusqu'à 40 ou 45, quand par exemple à l'ouest, on a une rapidité d'accès avec l'autoroute à 75.
Car vos sorties, précisons-le, sont faites en covoiturage.
Le covoiturage est assuré par les animateurs. Ouais. Hein ? Principalement, on peut avoir besoin de la voiture d'un des membres, mais c'est principalement les autres. Chaque organisateur se débrouille pour assurer ce covoiturage.
Bien sûr.
C'est lui qui crée sa randonnée et qui l'organise. Il la crée à partir d'un fonds qu'il va puiser dans des sites informatique ou dans des livres, où il la crée par ses propres reconnaissances, il fabrique son itinéraire, c'est son affaire.
Oui, il va sur le terrain et donc crée son propre parcours.
Voilà. La moyenne des participants, entre 15 et 20. On est quasiment jamais en dessous de 10 et on n'a pas dépassé 24 ou 25 peut-être une fois.
Voilà, c'est le bon groupe en quelque sorte.
Je te laisse apprécier. C'est vrai que certains d'entre nous ne souhaitent pas que nous soyons trop nombreux pour diverses raisons. Pour la sortie à la journée, donc une dizaine dans l'année, soit on choisit la journée parce qu'elle est assez loin, dans les Cévennes, au Larzac, sur de grands sites, sur des excursions plus importantes. On a une longueur qui peut atteindre jusqu'à une quinzaine de kilomètres. Je me souviens sur le Larzac, 17.
Oui, bon. Et avec quel type de dénivelé?
Le dénivelé irrégulier, évidemment que pour la sortie à la journée, c'est plus important. C'est plus important, mais on a vieilli et on a tendance à chercher à limiter nos dénivelés entre 300 et 400 mètres. De la même manière, pour ce qui est des après-midi, plutôt entre 150 et 200 mètres dans l'après-midi. C'est vrai.
Très bien,
que
c'est déjà ça remplit bien une journée.
Ça ne faisait pas partie des grandes préoccupations si je remonte à 10 ans quand on a créé l'association, mais c'est devenu. On a organisé ces 3-4 dernières années une sortie sur 2 jours avec une nuitée en gîte. Est-ce qu'on réussira cette année, ça c'est pas garanti. Je voudrais vous parler, si encore une minute, de l'état d'esprit de notre association. Nous marchons pour le plaisir. Nous rencontrons dans la convivialité qui rime avec la simplicité, la liberté. Et de la même manière que parcours loisir rime avec plaisir. L'autre état d'esprit, on l'a dit, c'est qu'on limite un peu les dénivelés parce qu'on a vieilli. Nos animateurs bénévoles donnent du temps, du travail, de leurs compétences, sans chercher un retour. Le retour, il est quand même là, par la sympathie, l'amitié, la confiance discrète de nos membres. On est tous amoureux de la nature, on est tous amoureux de la main de l'homme. À Parcours Loisirs, on a le plaisir de les partager ensemble dans la sympathie, l'amitié, un esprit de famille.
Donc tout un programme partagé par tous les adhérents. Bien, alors par rapport justement à ce que vous faites, je t'ai demandé de choisir une randonnée qui peut être qualifiée de caractéristique ou que tu aimes bien pour voir un peu de quoi il s'agit.
Alors, j'ai choisi la sortie que je qualifie des Vaillès. Les Vaillès, c'est le nom d'un hameau au bord du lac Salagou. Elle peut être connue par beaucoup, mais elle est tellement belle, on l'aime tellement. Et il faut ajouter, il reste, je m'en suis rendu compte il y a 2 ans, la dernière fois que nous l'avons faite, il reste encore du monde qui ne connaissent pas ces rives du Salagou. Donc je l'ai choisi pour le plaisir, parce que tout est beau et facile, vraiment facile. D'abord, notons, pour s'y rendre, l'accès par l'autoroute A75, sortie 55, Salagou-Octon. Il faut prendre la D609 vers l'Odève et 2 km après à Cartel, on prend à gauche la D148 vers Octon. 800 mètres après, on a un panneau sur la gauche. On va vers la base nautique des Vaillès, le camping. Il y a un vaste parking au bord du lac.
C'est donc le point de départ.
Point de départ. 2 mots sur le lac Salagou. Tout le monde sait que c'est la vallée immergée de la rivière Salagou suite à la construction du barrage en 1969. Sur la rive nord, le Salagou est bordée d'épaisses couches d'argile rougies par les oxydes de fer, les rufs. Par endroits, les sols sont nus, d'un rouge qui paraît artificiel. Le sol est plus ou moins bosselé en fonction des rigoles de l'érosion. Certains l'ont qualifié de lunaire, d'autres de martien. On a sur ce rouge quelques taches vertes de végétation. Si vous arrivez au printemps avec les poiriers sauvages, elles sont blanches. Un peu plus tard, au printemps, elles peuvent être bleues par les teints en fleurs ou jaunes. Bref, c'est féerique. On a une mosaïque de couleurs, mais aussi de paysages, au point que certains ont utilisé l'expression de « planète Salagou ». Planète Salagou, d'autres parlent de western, etc. Si on ajoute le bleu, si on a la chance, le bleu du ciel et du lac, le miroitement du soleil, franchement, mais je m'arrête parce que sinon, vous allez y aller pour vous allonger sur les rufs rouges, les plages rouges, ou bien vous baigner. Or, on est là pour marcher. Donc, mais tout ça fait que ce site a mérité le titre de grand site de France et Natura 2000. Et il fait la fierté du département, hein, de beaucoup. C'est féerique. Alors, notre rando, ce sont 8,5 km.
C'est relativement court.
Pour l'après-midi.
Voilà. Une bonne marche, quoi.
On est à une cinquantaine de kilomètres de Montpellier, mais l'accès est facilité par la 75. Donc, c'est assez rapide. Et on peut faire, d'autant plus qu'on a une marche facile, on peut faire ça dans l'après-midi, sans vraiment se presser, tout en goûtant, mais vraiment en goûtant l'enchantement de ce site.
En appréciant l'environnement, c'est vrai que c'est assez exceptionnel.
Trois tronçons bien distincts, plus le hameau du Vaillès. Le premier tronçon, c'est le sentier de la rive nord. On part du parking vers l'est. On traverse le camping et on borde, vraiment, on borde, on touche presque l'eau, on s'en éloigne de temps en temps. Attention à des talus, c'est amusant, c'est une promenade qui paraît enfantine et qui régale d'ailleurs les enfants. Mais il y a quelques passages délicats quand il s'agit de grimper sur un petit talus, c'est 1 mètre, 1,50 mètre de hauteur. Méfiez-vous pour les jours de pluie.
De petits franchissements, voilà, qui peuvent s'avérer glissants à certaines périodes.
Il vaut mieux avoir de bonnes chaussures. J'ai vu des personnes avec des savates, mais ce n'est pas conseillé, hein, pas du tout. On a de nombreux petits coins de paradis, que ce soit au bord de l'eau, sous des peupliers sauvages, de bas peupliers, dans les chênes, ou que ce soit sur les sols nus, rouges des rufs. Après 3 km et demi, il faut rechercher à gauche un sentier assez large, une piste qui part presque perpendiculairement. Il faut faire attention de ne pas dépasser le quartier d'un ancien hameau appelé Pradine. On ne le voit que très mal parce qu'il est caché par la végétation, mais il y a des pierres volcaniques noires. Donc c'est à ce niveau qu'il faut chercher le sentier qui part perpendiculairement en montant vers les pistes à flanc du plateau. Il n'y a pas de balises, il n'y a pas ou peu de cairns, mais ce sentier, on ne peut pas le manquer en le cherchant un petit peu, je répète, 3,5 km du départ.
Voilà, donc une légère reconnaissance pour vérifier que vous êtes sur le bon itinéraire.
Alors, le sentier qui monte fait 1 km et il grimpe de 60 mètres. Ça n'est pas une pente forte, c'est vraiment facile, même si à un petit moment... Il est un peu plus pentu et un petit peu plus caillouteux.
Oui, mais c'est 60 mètres, donc ça s'avale facilement quand
facile,
même.
C'est facile. Il arrive, ce sentier, sur la large piste en balcon à flanc de plateau. C'est notre troisième tronçon. Là, on prendra à gauche, simplement, en descendant. La piste est large. Elle est quasiment carrossable, on peut rencontrer des voitures, c'est pas gênant, hein. Y en a très peu, mais il est faisable en voiture, c'est appelé aussi une piste VTT. Là, on part sur l'ouest, c'est notre retour. On a le lac en mire, bien souvent donc en soleil couchant. On a des panoramas pendant une heure, 3 kilomètres, c'est un autre enchantement. Ce ne sont plus les ruffes rouges, c'est plus ces sols, mais c'est un autre enchantement, très facile. Attention à observer la falaise basaltique sur la droite. Donc, on a des orgues volcaniques, en particulier au début de notre descente, parce que vers environ 2 millions d'années, 1,5 million, on a eu des coulées basaltiques qui ont formé un plateau, le plateau de l'Auvergne, qui est posé là sur les ruffes. Et donc la piste va suivre ce plateau. La marche est très facile. On a un panorama, je répète, continu. On arrive au hameau des Vaillès, on le traverse pour rejoindre la rive du lac et le parking. Ce petit hameau en pierre noire sur les ruffes rouges, il est très joli lui aussi. Les maisons ont été restaurées avec goût pour la plupart. C'est simple. Après la traversée du hameau, 200 mètres, on a 200 mètres plus loin à droite, le camping, le parking.
Et retour aux voitures.
Voilà pour cette très belle randonnée. Encore une fois, je te remercie, Robert.
Eh bien, écoute, c'est un joli parcours que tu proposes là. Facile à découvrir, facile à accéder. Avec, comme tu dis, à la fois le rouge des ruffes et le noir des roches.
Des basaltes.
Des basaltes. Et des panoramas à couper le souffle. Merci, Claude. Notre chronique hebdomadaire, Je marche, donc je suis, se termine. Vous avez le podcast à disposition sur le site de la radio par l'adresse radiofmplus.org. Vous pouvez, à partir du podcast, laisser vos commentaires, conseils ou propositions pour améliorer cette chronique, votre chronique qui se structure. Vous pouvez également envoyer directement un mail à radiofmplus34@gmail.com. On se quitte maintenant sur une chanson de circonstance proposée par Claude, Que la montagne est belle de Jean Ferrat. Bye bye et à la semaine prochaine 10h.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver.